De quoi goûter? Ils ont faim. La maîtresse leur dit d'aller chercher un goûter à l'école, dans telle pièce, dans tel frigo. Ils y vont et bingo, à cet endroit-là, comme par miracle, un goûter les attend. Alors, ils mangent tous, mangent à leur faim et retournent jouer dans la cour. Aucun ne revient dire merci à la maîtresse. Aucun ? Si, si, en fait, il y en a un. Il n'y a qu'un seul. Et en plus, il s'agit d'un enfant qu'on dit être en grande difficulté familiale et scolaire. Et c'est lui qui a pensé à venir dire merci. Je vous propose de lire quasiment la même histoire, mais version Évangile de Luc, écrit il y a 2000 ans, Luc 17, versets 11 à 19. Et c'est à la page 678 pour ceux qui cherchent dans ces Bibles-là. Luc 17, à partir du verset 11. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire « Jésus, aie pitié de nous !» Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit « Allez vous montrer au prêtre !» Et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revient sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu ?» Puis il dit « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Première partie, nous voici donc avec Jésus en route vers Jérusalem. La fin de l'évangile de Luc approche, Luc 17. Jésus longe la frontière entre la Galilée et la Samarie. La Samarie, vous savez, c'est une région qui n'était pas forcément très aimée par Israël. Depuis que ça date de l'histoire de l'exil, quand Israël était parti à Babylone, certains peuples étaient venus s'installer, quand ils étaient revenus. Bref, la Samarie n'était pas vraiment aimée, à tel point que certains juifs préféraient faire le tour, contourner la Samarie, quitte à faire des kilomètres en plus, contourner la Samarie pour ne pas avoir à mettre les pieds en Samarie. Parenthèse, à plusieurs reprises dans les évangiles, Jésus montre que finalement le royaume de Dieu, il est tout autant pour les juifs que pour les samaritains. Je referme la parenthèse. Bref, en tout cas, à ce moment-là, Jésus est sur une de ces routes qui longe la Samarie. Et à l'entrée d'un village, il tombe sur 10 lépreux tout en se tenant à distance et lui crie à l'aide. Il l'appelle à l'aide. Alors aujourd'hui, on ne parle plus que du Covid, on ne parle plus que de la contagiosité de cette maladie et du risque pour les plus âgés, les plus vulnérables. Mais à l'époque, la lèpre, les conséquences de la lèpre, c'est une maladie bien pire et avec des conséquences bien plus dramatiques. Alors que l'on soit général syrien comme Naaman, dans l'Ancien Testament, ou alors simple habitant de Galilée, de Samarie ou de Cavaillon, la lèpre signifiait une très très lente descente aux enfers. On ne parle pas de 3 semaines de réanimation, on parle d'une lente descente aux enfers. Une maladie visible sur son visage, la pauvreté, la misère. Alors, ce n'est pas un masque à porter, mais c'était la nécessité de crier devant soi, impur, impur, pour avertir ceux qui sont devant de faire place. Vous vous en souvenez, c'est terrible. Une sorte, et surtout un confinement sans fin. Pas de couvre-feu, pas un confinement pour un mois, mais un confinement jusqu'à la mort. Regardez nos 10 lépreux, ils se sont regroupés ensemble à l'extérieur d'un village et font comme ils peuvent pour survivre. La distanciation sociale forcée avant l'heure. Une souffrance physique, une souffrance sociale, mais aussi une souffrance rituel, spirituel, dans la loi mosaïque, Lévitique 13, le sujet de la lèpre est abordé en détail, et longuement abordé, preuve du danger réel que ça représentait à l'époque. Un chapitre en entier. Lévitique 13, verset 45, « Le lépreux atteint de la plaie portera des vêtements déchirés et aura la tête nue, il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Et il habitera seul, et sa tente sera à l'extérieur du village. » Lévitique 13. Ces règles drastiques, ces gestes barrières, qui datent d'il y a plusieurs millénaires, mais c'est déjà ça, ces gestes barrières, permettaient de protéger le peuple d'Israël d'une pandémie, le terme est à la mode, mais surtout parlaient de la sainteté de Dieu. Une personne malade de la lèpre, une personne malade tout court, une personne même avec un écoulement sanguin, ne pouvait servir Dieu, ni au temple, ni ailleurs. Alors non pas que ces personnes avaient moins de valeur, mais que tout en Israël devait refléter la perfection de Dieu. Alors quand on a conscience de tout cela, de cette souffrance physique, sociale, spirituelle, on comprend l'appel désespéré de nos 10 lépreux, plus fort que les 10 écoliers dans la cour de récréation qui ont le ventre qui gargouille. « Maître, aie pitié de nous !» Alors peut-être qu'ils avaient eu écho que Jésus avait déjà guéri des lépreux. Ça, ils avaient dû le savoir. D'où le rappel. En Luc 5, Jésus avait guéri de nombreux malades, dont un lépreux. Vous vous en souvenez comment il l'avait guéri, Jésus? En le touchant. S'il y a bien une chose à ne pas faire avec un lépreux, c'est le toucher. Jésus l'avait touché. Cette fois-ci, ce n'était pas l'impureté qui avait été contagieuse, mais c'était la pureté qui avait été contagieuse, la sainteté qui avait été contagieuse, la guérison. Alors oui, nos 10 lépreux, quand ils voient Jésus, ils crient à l'aide, « Maître, aie pitié de nous !» Aujourd'hui, XXIe siècle, Cavaillon, vers quoi les gens se tournent-ils lorsqu'ils sont dans une impasse, dans une situation impossible? À qui crient-ils à l'aide? Et vous, nous, à qui crions-nous à l'aide quand on est dans une impasse? En nous-mêmes? En qui on met notre espoir? En nous-mêmes? Dans notre horoscope? Dans Mère Nature qui va nous réconcilier avec l'univers? Dans nos bonnes résolutions du 1er janvier? C'est pas tout à fait là de l'époque, mais vous voyez ce que je veux dire? Dans notre pays qui doit prendre soin de nous, ou alors dans des théories fumeuses, à droite à gauche? En qui mets-tu ton espoir et ta confiance? À qui cries-tu? À qui cries-tu? La prière de ces 10 lépreux, elle est sincère, n'en doutons pas. Cependant, leur foi, elle va s'avérer, elle, beaucoup plus superficielle que leur prière. Car oui, il s'agit bien de foi. On peut critiquer les 9 lépreux, mais n'empêche qu'ils ont fait preuve de foi. Regardez ce que Jésus leur dit. Il ne les touche pas. Il ne les guérit pas à l'instant T. Il leur dit quoi? Il ne leur fait pas de miracle, il leur dit simplement d'aller voir les prêtres. Les prêtres, ce n'est pas un médecin. Le prêtre n'est pas un magicien. Le rôle du prêtre, c'était simplement constater la guérison. Donc Jésus leur dit, très bien, j'ai entendu votre prière, allez voir les prêtres pour montrer que vous êtes guéris. À ce moment-là, ils ne le sont pas, mais ils y vont. C'est comme si tu n'as pas de boulot, Jésus te dirait, très bien, je t'ai entendu, va à la banque déposer ton salaire. Mais j'ai pas de boulot. Très bien, va à la banque déposer ton salaire. Hébreux 11, verset 1. La foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et nos 10 lépreux, ils ont une foi. Éphémère, certes, mais une vraie foi. Ce qu'ils attendaient de Jésus, c'était quoi? C'était leur propre guérison à eux. Ce que j'attends de Jésus, c'est ma propre guérison à moi et rien de plus. La fin de leurs problèmes, de leurs souffrances, aussi profondes soient-elles, mais n'empêche qu'ils n'attendaient que ça, rien de plus. Jésus a fait son boulot, il a fait ce qu'il devait faire, il a guéri. Après tout, c'est son boulot de guérir et de bénir, non ? C'est pas ça qu'est censé faire Jésus, qu'est censé faire Dieu ? À quoi bon le remercier ? C'est normal, c'est à lui de me servir. Luc 17, verset 10, juste avant notre passage, Jésus nous dit qu'on doit être des serviteurs inutiles. À ce moment-là, est-ce que les 10 lépreux, les 9 lépreux, le considèrent pas comme un serviteur inutile qui n'a fait que ce qu'il devait faire ? À quoi bon le remercier ? Il n'a fait que ce qu'il devait faire. Quand nous venons vers Jésus, et c'est une question pour nous, que ces 9 lépreux nous renvoient, quand on vient vers Jésus, est-ce qu'on vient vers lui seulement pour chercher ce que l'on veut ? Au regard de nos problèmes, de nos soucis, de nos besoins du moment, à ce moment-là, on va voir Jésus. Pour quelle raison est-ce qu'on vient vers Jésus ? Pour nos problèmes ? Est-ce qu'on considère normal dans ces cas-là que ces bénédictions et ces bienfaits ? Qu'est-ce que le monde attend de Dieu ? Qu'est-ce que le monde attend de Dieu aujourd'hui ? La fin des guerres ? La fin de la famine dans le monde ? Plus de coronavirus, évidemment ? Plus de chômage ? C'est le boulot de Dieu de nous épargner toute cette souffrance. C'est son boulot. Les 10 lépreux nous montrent qui n'attendaient aucune chose, leur propre guérison à eux, rien de plus. Et c'est ce que le monde attend aujourd'hui de Dieu, la fin du virus, la fin de la pandémie, la fin du confinement et la fin du couvre-feu. Jésus, c'est à toi de faire, c'est ton boulot. Alors venons à l'inverse, venons à Jésus, crions à lui, ayons foi en lui, mais non simplement avec nos propres problèmes, notre liste de sujets de prière, dans l'attente d'un coup de pouce qu'il devrait nous donner. Jésus est venu pour faire bien plus que cela, et on va le voir à la fin. Heureusement, deuxième partie, un des dix lépreux réalisant qu'il est guéri, qu'une nouvelle vie va pouvoir recommencer, qu'il va pouvoir revoir sa famille, peut-être qu'il n'a pas vu depuis des années, il fait demi-tour et il va dire merci à Jésus. 1 sur 10, 10%. Et comble de l'histoire, vous avez vu qui c'est ? C'est le Samaritain du groupe. C'est lui qui fait demi-tour. Quelle claque pour les disciples ! Quelle claque pour les Juifs qui sont là, qui voient cette histoire, qui écoutent Jésus ? Non ! L'amour de Dieu, le royaume de Dieu, ne s'arrête pas aux frontières d'Israël, mais inclut la Samarie. C'est un thème cher à Luc, et Luc se garde bien dans son évangile de faire plusieurs piqûres de rappel. En voici une. Alors, est-ce que c'est son identité de Samaritain qui lui a fait encore plus prendre conscience de la grâce qui lui a été faite ? Donc, c'est le seul comme ça à penser. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, qu'il soit Samaritain ou pas, ce miracle n'a rien de normal. Jésus mérite d'être remercié et Dieu d'être loué. Quand vous allez chez le boulanger, j'y suis allé ce matin, lui dites-vous merci quand il vous tend votre baguette de pain que vous avez achetée avec votre argent. Thomas, tu dis merci quand tu achètes le pain ?
Non, c'est maman qui dit.
C'est maman qui dit. Oui, on dit merci. Pourtant, on a acheté. Quand vous allez au distributeur automatique, retirez votre billet. Est-ce que vous dites merci au distributeur automatique ?
Non.
Ben non. Bon, certes, c'est un robot, mais au final, il a fait que son boulot, ce pourquoi il est programmé. Donc, à quoi bon lui dire merci ? Il a fait simplement les touches qu'on lui a demandées. Est-ce que parfois, certaines personnes, nous, est-ce qu'on considérait Jésus comme un distributeur automatique de bienfaits ou de bénédictions qui convient à peine de remercier parce qu'après tout, c'est son boulot. Jésus n'est pas un distributeur automatique et il est mieux qu'un boulanger, il est le Fils de Dieu venu sur terre pour, Luc 4, toujours c'est Luc qui nous le dit, pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer la délivrance aux prisonniers, donner la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, et je rajoute, pour guérir les lépreux. Jésus est bien plus qu'un distributeur automatique, et bien plus qu'un boulanger. Alors oui, notre dixième lépreux prend conscience de tout cela et fait demi-tour pour remercier Dieu et Jésus. Dieu et Jésus. Non. Verset 15, il loue Dieu à haute voix et arrivé à Jésus, se prosterne face contre terre aux pieds de Jésus. Pourquoi loue-t-il Dieu alors que c'est Jésus qui l'a guéri ? Quoi, nous, ça nous paraît évident. Nous, ça nous paraît évident, mais ça veut dire que lui, il l'a compris. Il a compris que Dieu et Jésus ne font qu'un et que la volonté de l'un prend forme sous l'action de l'autre. Nous, ça nous paraît peut-être clair, mais mettez-vous dans sa peau. Il comprend qu'il a été au bénéfice de la grâce de Dieu, Dieu le Père et Dieu le Fils. Et donc, au final, le dixième lépreux remercie Dieu autant pour sa propre guérison à lui, dont il est au bénéfice, que ce qu'il vient de comprendre de l'identité de Jésus, Dieu incarné. Remercier Dieu pour ce que Dieu est et ce que Dieu fait, c'est ce que nous aurons l'occasion tout à l'heure de faire en chantant et priant. Remercier pour ce que Dieu est et ce qu'il fait. Dans la reconnaissance que manifeste lépreux, dans le mot reconnaissance, il y a le verbe... Alice, dans le mot reconnaissance, il y a le verbe...
Reconnaître.
Être reconnaissant, c'est reconnaître ce que Dieu fait et ce que Dieu est. Quand nous chantons à Dieu notre reconnaissance, nous reconnaissons ce qu'il fait et ce qu'il est. Qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui pourrait nous arriver à nous de considérer comme normal de la part de Dieu, à nous ? Notre famille, notre santé, notre travail, notre église ? C'est normal après tout. Et puis même la présence de Dieu, son soutien, sa parole, son aide, tout cela sont des choses normales, non ? Jacques, verset 1, « Ne vous y trompez pas, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent des Pères des Lumières. Rien ne nous est dû, tout est grâce et vient de Dieu. » Rien ne nous est dû, tout est grâce et vient de Dieu. Il est des paysages des fois tellement jolis qu'à force de les voir, le Luberon est magnifique, les Alpilles sont magnifiques, à force de les voir, on ne voit plus leur beauté. N'est-ce pas ? De la même manière, à quoi sommes-nous tellement habitués de la part de Dieu que notre reconnaissance n'en devient que tiède ? Sa grandeur, le salut en Jésus-Christ, on le chante tous les dimanches, donc au bout d'un moment, bon bah, voilà, hein. On les connaît les cantiques. Hein. La mort sur la croix, la résurrection de Jésus, Jean 3,16, que l'on connaît par cœur, qu'on apprend aux enfants, mais rien que dans Jean 3,16, ne nous lassons pas de ce verset. Ne nous lassons pas tout cela, je ne veux pas me lasser de tout cela, et qu'on puisse dire avec le psaume 146, « Je louerai l'Éternel » tant que je vivrai et je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. C'est le texto que je vous ai envoyé avant-hier. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je ne me lasserai pas de le célébrer et de le louer, tout comme je ne me lasserai pas de contempler le Luberon, les Alpilles ou je ne sais où. Autant la foi intéressée et superficielle de ces 9 lépreux était un avertissement, autant l'exemple de reconnaissance de la part de ce 10e lépreux est un exemple magnifique pour nous et pour moi. Ce qui est extraordinaire, et c'est notre troisième partie, c'est qu'en fait, cet exemple de reconnaissance, ce merci, et en fait, c'est le cœur du passage. C'est pas seulement quand tu es chez le boulanger avec maman, où en fait, bon, le plus important, c'était la baguette, et merci, c'est simplement pour être poli. En fait, non, au cœur de ce passage... Ce qui est au cœur, en fait, ce qui est au cœur de ce passage, c'est pas tant la guérison initial que finalement l'acte de reconnaissance. Et c'est pour ça que Luc, inspiré par le Saint-Esprit, décide d'en faire le, quoi, de raconter cet épisode. Ce n'est pas qu'un simple geste de politesse apprécié par Jésus, la cerise sur le gâteau, l'olive sur le pain, sur la pizza, ouais, voilà. Non, au contraire, la reconnaissance de ce lépreux, c'est en fait le cœur de ce passage et c'est le chemin vers une guérison bien plus grande, bien plus profonde. Dernier verset, est-ce que quelqu'un peut nous le lire? Le verset 19, les dernières paroles de Jésus. Les dernières paroles de Jésus qui dit
« Lève-toi,
vas-y, ta foi t'a sauvé. » Et le dernier mot de Jésus, « sauvé », en fait, il peut se traduire autant, il y a un jeu de mots, il peut se traduire autant par « sauvé » que par « guéri ». Ta foi t'a guéri, mais toi, dans ton cas, ta foi t'a sauvé. Vous voyez et on comprend toute l'ironie de l'histoire, en fait. C'est que la guérison, elle n'était pas dans le miracle initial, mais elle était dans la foi salvatrice. Cette foi débordante de reconnaissance auquel le dernier lépreux peut bénéficier. Finalement, en fait, ce dernier, il a reçu bien plus que sa prière initiale. Il avait dit, comme les autres, hein, « Aie pitié de moi !» Au final, il a reçu bien plus que ce qu'il était venu chercher. Non une simple guérison de peau et un teint rayonnant, mais un renouvellement de son cœur, une guérison intérieure et la vie éternelle. Et ça, c'est plus que la cerise sur le gâteau, c'est plus que l'olive sur la pizza, mais c'est la pizza sous l'olive. Notre monde, on l'a dit tout à l'heure, attend de Dieu seulement qu'il le délivre de ses problèmes, de ses guerres, de ses famines, de son virus. Le monde attend ça de Dieu. Mais Dieu veut faire bien plus que cela. Il veut apporter une guérison, non seulement des peaux et des virus, mais une guérison, un salut bien plus profond et définitif, le pardon des péchés, un cœur renouvelé et une espérance que rien ne peut atteindre. Et en cela, le monde attend que Dieu lui épargne toute souffrance immédiate, toute maladie, toute larme, mais Dieu, il a fait bien plus que cela. Et je pense que ce lépreux va l'expérimenter. Dieu, en Jésus-Christ, a non seulement... Il a vaincu la mort. Il ne l'a pas diminué. Il a vaincu la mort. Il a pris sur lui le poids de notre responsabilité à nous dans ce bazar. Et s'apprête à recréer un monde sans larmes, sans deuil, sans virus et sans mort. Et il nous réserve une place. Waouh ! C'est bien plus qu'une guérison au détour d'un chemin en Samarie, n'est-ce pas ? Éphésiens 3, à celui qui peut faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Avant de conclure, posons-nous une dernière question. Et les questions, les enfants, vous pouvez m'aider à y répondre. Qui a fait preuve de foi dans ce passage?
Je fais partie des enfants.
Allez, tu fais partie des enfants. Qui a su faire preuve de foi?
Les 10,
t'es d'accord? Ne t'inquiète pas, j'ai encore une question après, je te sens frustré là. Les 10 ont fait preuve de foi. Qui a fait preuve de foi et de reconnaissance?
Oh là.
Le dixième, alors je ne sais pas dans l'ordre, en tout cas oui, le dernier, le Samaritain. Et donc au final, lequel a été véritablement guéri et sauvé?
Le dixième.
Celui qui a fait preuve de foi et de reconnaissance. Qu'en conclure, que la foi sans la reconnaissance est morte. La foi sans la reconnaissance est morte. Pas malade, pas diminuée, pas tiède, non. La foi sans la reconnaissance est morte. Jacques, il dit la même chose. Jacques, qu'est-ce qu'il dit dans son épître? Que la foi sans les œuvres est morte. Et là, Jésus et Luc nous disent que la foi sans la reconnaissance est morte. Waouh ! Une foi qui ne conduit pas à la reconnaissance, c'est forcément dans un sens une foi bancale, une foi superficielle, donc au final une foi morte. À l'inverse, une foi confiante, une foi reconnaissante, une foi qui reconnaît ce que Dieu est, ce que Dieu fait, une foi qui nous invite à faire comme le Samaritain, à louer Dieu à haute voix et à se prosterner aux pieds de Jésus. Alors ça, c'est une foi vivante. Ça, c'est une foi qui sauve. Ça, c'est une foi qui nous conduit à la vie éternelle. Amen. Et c'est ça qu'on a le plus besoin. C'est ça que le monde a besoin, bien plus que je ne sais quel vaccin magique contre le virus ou quelconque autre problème. Pour conclure, je vous invite simplement à continuer notre culte. On va reprendre les choses dans le bon ordre maintenant. Et justement, à prendre plusieurs cantiques pour exprimer à Dieu notre reconnaissance. Notre reconnaissance de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Notre reconnaissance de la vie qu'il nous donne en Jésus-Christ. Et la reconnaissance de cette guérison intérieure qu'il offre et qu'il nous a offert. Rien de tout cela ne nous est dû. Et Jésus n'est pas un distributeur automatique. Alors à l'inverse, chantons-lui notre foi pleine de reconnaissance, donc notre foi vivante. Amen. Prions et prenons un cantique qui s'intitule « Merci ». Seigneur, nous voulons effectivement te dire merci, nous voulons venir à toi. Tu n'es pas un distributeur automatique, tu n'es pas quelqu'un qui ne fait seulement son travail, qui nous donne ce que nous méritons. Mais au contraire, Seigneur, tu nous donnes bien plus que ce que nous aurions même pu oser te demander ou penser. Seigneur, merci parce qu'en Jésus-Christ, tu fais des miracles, tu soutiens, ton royaume de Dieu grandit jour après jour, mais plus que cela, Seigneur, tu as en Jésus-Christ vaincu la mort. Pris sur toi le prix de nos responsabilités et nous offre un salut, Seigneur, que nous ne méritions pas. Merci pour cela, merci pour cette grâce qui nous a été faite. Nous voulons te bénir, nous voulons reconnaître ce que tu fais et nous voulons ne pas nous en lasser et persévérer dans cela. Et en cela, notre foi est vivante et nous voulons te le chanter, te le prier encore ce soir. Amen.